Premier de cordée. Deux jours auparavant, parti du refuge de l'aiguille du Goûter une heure avant le jour, Joseph Ravana et sa cordée avaient atteint sans encombre la cime du Mont Blanc. On était au 1er septembre de cette année 1925, qui fut sèche entre toutes dans le massif du Mont Blanc. Brusquement, un orage se déclencha alors qu'ils entreprenaient la descente du versant italien par la longue et difficile route des rochers du Mont Blanc. Un orage très rapide qui dura une heure à peine, mais qui fut d'une violence extrême. À plusieurs reprises, la foudre tomba tout près de la niche de rochers où ils s'étaient abrités après avoir laissé les piolets à distance respectable pour ne pas attirer le fluide. Neige et grêle s'étaient succédées sans interruption, recouvrant la montagne d'une blancheur nouvelle. Puis, en quelques minutes, un coup de vent du nord avait chassé partiellement les brumes, ramenant le soleil et découvrant de larges pans de ciel bleu. Imperturbable, Ravana, qui en avait vu bien d'autres, avait ordonné la descente. Servats, en sa qualité de porteur, allait devant, suivi par les demoiselles, et en dernier, le vieux guide assurait la caravane, corde tendue, attentif à prévenir tout dérapage. Il n'eût pas fallu en effet déraper. La caravane s'était engagée dans un couloir de glace recouvert de neige fraîche qui plongeait à 60 degrés d'inclinaison vers le précipice du glacier de Miage, quelques 2000 mètres plus bas. Le danger décuplait les facultés de Pierre, qui taillait lentement à coups de pics et de pannes des marches pour les clientes. L'éclaircie fut de courte durée. Un rideau de brume débordant par-dessus le dôme du Goûter s'effilochait sur les flancs sud du Mont Blanc. Il engloutit la caravane dans un coton glacial et impénétrable, et la neige se mit à tomber, fine et serrée, presque du givre. Ravana, dans le brouillard, ne distinguait qu'avec peine le jeune Servats, qui, 45 mètres plus bas, hésitait de plus en plus sur la direction à suivre. Bientôt, le guide se rendit compte qu'il lui devenait nécessaire de descendre en premier, lui seul pouvant s'y reconnaître entre tous ces petits îlots rocheux qui pointaient de ci de là sur la pente de glace délimitée par de profondes rigoles où bruissaient les coulées de neige. « Attends, Pierre !» ordonna-t-il. « Tu tires trop à main gauche. Laisse-moi passer devant. Tous ces petits colus se ressemblent. » Servats obéit avec un léger serrement de cœur. Descendre en dernier équivalait à prendre la place du guide et ses responsabilités. Tant qu'il allait devant, bien assuré par la corde qui le reliait à travers les deux clientes au solide pilier que constituait Ravana, il se sentait en pleine sécurité. À diverses reprises, les demoiselles fatiguées et engourdies par le froid avaient manqué dans les marches, chaque fois, d'un coup de poignet sec et impératif, Ravana, prévenant la chute, avait rétabli l'équilibre. « Droit debout, les demoiselles, disait-il, droit debout, dans les pas !» Le sort de la caravane reposait maintenant entre les mains robustes, certes, mais encore inexpérimentées du porteur. Prenant son temps, il enfonça solidement son piolet jusqu'à la garde dans la neige et assura la corde derrière le manche de frêne, tandis que Ravana, doublant la cordée et ayant rectifié la direction suivie, taillait déjà d'une seule main, creusant une marche en trois coups de piolet et filant à longueur de corde.